Document 1. Vous disposez d'une minute pour lire les questions. Première écoute.
Et une question toute la semaine dans le Zoom de la rédaction. Vivons-nous mieux aujourd'hui que dans les années 60? Parmi les domaines qui ont bouleversé notre quotidien, il y a bien sûr les nouvelles technologies, de l'ordinateur au téléphone portable, révolution numérique encore inachevée et que retrace pour nous Sophie Bécherel.
Il est temps maintenant de faire connaissance de façon plus précise avec un ordinateur.
Bien, vous avez là un ordinateur déjà d'une assez grande puissance. Comme vous le voyez, il se compose d'un certain nombre d'éléments physiquement séparés, mais il faut comprendre que l'ordinateur, c'est bien cet ensemble de meubles. Ils sont en effet reliés entre eux électriquement et cet ensemble constitue l'ordinateur.
Nous sommes en 1966 à Lagaude, près de Nice. IBM y a installé son laboratoire de recherche. Et M. Marx, son directeur en pédagogue hors pair, ajoute à quel point un ordinateur, c'est simple, des fils, de la ferraille, des circuits imprimés, des transistors et des résistances, donc, dit-il, quelque chose de bien loin d'un cerveau humain. On est surtout loin d'un usage généralisé de la machine, souligne Philippe Nieubourg, le directeur du musée de l'informatique joint au Canada.
Les ordinateurs dans les années 60, c'est uniquement pour les entreprises, pour les administrations, pour le militaire, etc. L'informatique personnelle n'arrivera qu'à partir du début des années, fin des années 70, début des années 80. Un ordinateur pour une entreprise, ça coûte plusieurs millions de francs de l'époque, ça correspond à plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui, et donc c'est réservé à des traitements comme la paye, la comptabilité, le calcul des primes dans le domaine de l'assurance, le calcul des horaires de train à la SNCF, les statistiques à l'INSEE, etc. Voilà les usages de l'époque.
Dans les années 60, Internet n'a pas encore été inventé, mais l'idée de faire communiquer les ordinateurs est là. C'est au SICOM, en 1964, qu'a lieu la première communication entre la France et l'Angleterre. C'est très lent et personne n'imagine alors que 40 ans plus tard, les messages, la vidéo, le son seront transmis massivement chaque seconde sur la planète. À l'époque, pour manier l'ordinateur, il faut être un peu programmateur. Philippe, 58 ans, est aujourd'hui grand-père.
Je me souviens, dans les années 60, le matériel qui était à notre disposition était pensé par des ingénieurs et pour des ingénieurs. Alors aujourd'hui, c'est toujours pensé par des ingénieurs, mais ils se sont mis dans la peau de l'utilisateur, donc pour tout ce qui est ordinateur et autres outils, avec des interfaces qui sont très faciles.
Oh, vous êtes pénible, qu'est-ce que vous voulez?
On voudrait téléphoner.
À qui?
Je voudrais le 22 à Agnières.
Ça, c'est l'autre grande révolution depuis les années 60. Même si on doit se rendre au PTT pour téléphoner à l'époque, les communications à l'autre bout du monde sont aisées.
Oui, cabine radio, s'il vous plaît. C'est pour San Francisco. Tu l'as directement par la radio, très bien. San Francisco, cabine 6.
L'usage est toutefois limité car le coût reste élevé. Aujourd'hui, les Français sont complètement accros à leur portable. Un pour le boulot, un pour soi, un par enfant, une tablette pour la famille. Il y a plus de cartes SIM que d'habitants désormais. Et nous passons en moyenne 2h51 à téléphoner chaque mois, sans parler des SMS. Kiris, 14 ans, échange largement avec ses copines.
On va sur Internet, Facebook, on envoie des SMS, on fait un peu tout avec. Ça fait un peu ordinateur aussi. Donc une conversation, ça fait quoi? Ça fait une centaine de SMS. Voilà, plus d'une centaine de SMS par jour, je pense.
Largement au-dessus de la moyenne française, qui est à 255 textos par mois pour chaque Français. Le smartphone est de toute évidence devenu le doudou des adultes, ce qui effraie un peu Philippe, dont l'usage de l'engin est, dirons-nous, modéré.
Il y a une forme d'addiction très forte. Moi, je vois dans les transports en commun, quelqu'un qui n'a pas son smartphone à la main, soit pour écouter, soit pour taper quelque chose dessus, on devient des dinosaures, quoi, un peu. Hein. Voilà. C'est devenu, je pense, une espèce de drogue.
Alors que les Français ont massivement adopté ces téléphones intelligents, en tirent-ils un usage qui les rend plus heureux aujourd'hui qu'hier ? Marc Giget est le fondateur de l'Institut européen de stratégie créative et d'innovation. Son analyse.
C'est vrai que la communication était plus proche. Le téléphone, c'est le téléphone familial, hein, vous savez, les gens hésitaient à appeler, hein, s'ils tombent sur le mari ou sur les gosses, sur les choses comme ça. Aujourd'hui, chacun autonome. Ça laisse penser qu'il y a une facilité très grande de communication. Et pourtant, presque un quart des pubs à la télé, c'est sur les sites de rencontres. Vous avez remarqué, donc, l'impression que c'est plus difficile de se rencontrer. Ou du moins, la communication est plus facile de loin que de près. Sinon, est-ce que les contenus ont changé ? Est-ce qu'on se dit autre chose au téléphone, oui ou non ? Autre que je t'aime plus, mamie est morte, on a eu le contrat, vous venez ce week-end, enfin, ce qu'on dit d'habitude, quoi. Et il semble pas qu'il y ait grand-chose de nouveau. Par contre, dans l'accès aux connaissances, c'est incroyable quand on fait des choses qu'on n'aurait jamais pensé possible, quoi. N'importe quel tableau, n'importe quel poème, n'importe quel objet technique, n'importe quelle référence, n'importe quel carnet d'Einstein, n'importe quel dessin d'un humaniste de la Renaissance est accessible. Ça vous fait des choses d'un contenu beaucoup plus riche quand même. I put a nickel in the telephone.
Deuxième écoute.
Et une question toute la semaine dans le Zoom de la rédaction. Vivons-nous mieux aujourd'hui que dans les années 60 parmi les domaines qui ont bouleversé notre quotidien ? Il y a bien sûr les nouvelles technologies, de l'ordinateur au téléphone portable, révolution numérique encore inachevée et que retrace pour nous Sophie Becherel.
Il est temps maintenant de faire connaissance de façon plus précise avec un ordinateur.
Bien, vous avez là un ordinateur déjà d'une assez grande puissance. Comme vous le voyez, il se compose d'un certain nombre d'éléments physiquement séparés, mais il faut comprendre que l'ordinateur, c'est bien cet ensemble de meubles. Ils sont en effet reliés entre eux électriquement et cet ensemble constitue l'ordinateur.
Nous sommes en 1966 à Lagaude, près de Nice. IBM y a installé son laboratoire de recherche. Et M. Marx, son directeur en pédagogue hors pair, ajoute à quel point un ordinateur, c'est simple, des fils, de la ferraille, des circuits imprimés, des transistors et des résistances, donc, dit-il, quelque chose de bien loin d'un cerveau humain. On est surtout loin d'un usage généralisé de la machine, souligne Philippe Nieubourg, le directeur du musée de l'informatique joint au Canada.
Les ordinateurs dans les années 60, c'est uniquement pour les entreprises, pour les administrations, pour le militaire, etc. L'informatique personnelle n'arrivera qu'à partir du début des années, fin des années 70, début des années 80. Un ordinateur pour une entreprise, ça coûte plusieurs millions de francs de l'époque, ça correspond à plusieurs millions d'euros d'aujourd'hui, et donc c'est réservé à des traitements comme la paye, la comptabilité, le calcul des primes dans le domaine de l'assurance, le calcul des horaires de train à la SNCF, les statistiques à l'INSEE, etc. Voilà les usages de l'époque.
Dans les années 60, Internet n'a pas encore été inventé, mais l'idée de faire communiquer les ordinateurs est là. C'est au SICOM, en 1964, qu'a lieu la première communication entre la France et l'Angleterre. C'est très lent et personne n'imagine alors que 40 ans plus tard, les messages, la vidéo, le son seront transmis massivement chaque seconde sur la planète. À l'époque, pour manier l'ordinateur, il faut être un peu programmateur. Philippe, 58 ans, est aujourd'hui grand-père.
Je me souviens, dans les années 60, le matériel qui était à notre disposition était pensé par des ingénieurs et pour des ingénieurs. Alors aujourd'hui, c'est toujours pensé par des ingénieurs, mais ils se sont mis dans la peau de l'utilisateur, donc pour tout ce qui est ordinateur et autres outils, avec des interfaces qui sont très faciles.
Oh, vous êtes pénible, qu'est-ce que vous voulez ?
Je voudrais téléphoner.
À qui ?
Je voudrais le 22 à Agnières.
Ça, c'est l'autre grande révolution depuis les années 60. Même si on doit se rendre au PTT pour téléphoner à l'époque, les communications à l'autre bout du monde sont aisées.
Oui, cabine radio, s'il vous plaît. C'est pour San Francisco. Tu l'as directement par la radio, très bien. San Francisco, cabine 6.
L'usage est toutefois limité car le coût reste élevé. Aujourd'hui, les Français sont complètement accros à leur portable. Un pour le boulot, un pour soi, un par enfant, une tablette pour la famille. Il y a plus de cartes SIM que d'habitants désormais. Et nous passons en moyenne 2h51 à téléphoner chaque mois, sans parler des SMS. Kiris, 14 ans, échange largement avec ses copines.
On va sur Internet, Facebook, on envoie des SMS, on fait un peu tout avec. Ça fait un peu ordinateur aussi. Donc une conversation, ça fait quoi? Ça fait une centaine de SMS? Voilà, plus d'une centaine de SMS par jour, je pense.
Largement au-dessus de la moyenne française, qui est à 255 textos par mois pour chaque Français. Le smartphone est de toute évidence devenu le doudou des adultes, ce qui effraie un peu Philippe, dont l'usage de l'engin est, dirons-nous, modéré.
Il y a une forme d'addiction très forte. Moi, je vois dans les transports en commun, quelqu'un qui n'a pas son smartphone à la main, soit pour écouter, soit pour taper quelque chose dessus, on devient des dinosaures, quoi, un peu. Hein. Voilà. C'est devenu, je pense, une espèce de drogue.
Alors que les Français ont massivement adopté ces téléphones intelligents, en tirent-ils un